Marie, le Paris Podcast Festival, c'est le premier rendez-vous du podcast en France. D'ailleurs, France Culture en est partenaire, hein, c'est pour dire. Avec cette troisième édition du 15 au 18 octobre, il prend encore de l'essor en se tenant sur 4 jours. C'est à la Gaîté Lyrique, rencontres, ateliers, enregistrement public, écoute collective, compétition officielle. C'est un festival, hein. Festival à vivre sur place, mais aussi bien sûr en ligne.
Oui, et le podcast, la radio en général, c'est aussi une voix qui habite notre quotidien. Et alors, pour parler de ce phénomène impalpable et pourtant présent en permanence, Bruce Bégout, bonsoir, vous êtes philosophe, vous travaillez notamment en ce moment sur le concept d'ambiance. Alors justement, pourriez-vous nous dire si l'on peut considérer la radio comme une ambiance? Et finalement, y a-t-il dans nos perceptions une spécificité de la voix humaine?
Oui, enfin, l'ambiance peut passer par différents canaux sensoriels. L'odeur, par exemple, qui est très atmosphérique, mais les voix aussi sont porteuses d'ambiance. Et la voix d'une personne, par exemple, peut déjà dégager une certaine atmosphère de chaleur, de convivialité, ou au contraire, être inquiétante ou hostile. Donc la voix, enfin, comme au fond tout comportement humain, la voix est... et porteuse d'atmosphère, oui, ça c'est un point, je pense, que les psychologues ou les anthropologues ont remarqué et analysé depuis un certain temps. Oui.
Est-ce que, peut-être, avant d'aller plus loin, vous pourriez en quelques mots nous définir ce que vous entendez philosophiquement par ambiance?
Disons, une ambiance, c'est l'effet que nous fait ce qui nous entoure, donc le sentiment de ce qui nous environne. Et pas de l'environnement au sens matériel, mais l'environnement immédiat qui peut changer. Donc le moment et le lieu, et le moment et le lieu dans lequel nous sommes sont toujours porteurs d'une tonalité affective qui peut être positive ou négative et que l'on ressent immédiatement. On peut dire donc que l'ambiance, voilà, c'est le sentiment de cet entourage immédiat de nos vies.
Et quand nous sommes environnés de silence, c'est quand on est quand même environné d'une ambiance?
Ah oui, parce que le silence lui-même, je dirais, est porteur d'ambiance. Songeons aux ambiances monastiques, donc même le silence d'une forêt, etc. Donc les lieux et les moments sont tous porteurs d'ambiance. D'ailleurs, enfin, l'idée que je développe, c'est qu'il y a tout le temps des ambiances. Enfin, il n'y a pas de moment qui serait vide d'ambiance, même ce qui nous semble être une ambiance neutre et froide est encore une ambiance, oui.
Peut-on dire que quand on écoute la radio ou des podcasts, nous sommes à la fois actifs et contemplatifs?
Là, c'est une vaste question, parce que dans l'histoire de la radio, les premières critiques de la radio visaient justement cette activité parasitaire, au sens où les gens pouvaient faire quelque chose et en même temps écouter la radio, ce qui semblait être une perte de la qualité de l'écoute. Pour certains penseurs, critiques de la radio, comme si au fond la véritable écoute impliquait une passivité totale, un abandon total à ce que l'on entend, alors qu'avec la radio, bien évidemment, nous écoutons tous la radio en faisant peut-être autre chose. Est-ce que cela nuit à la qualité de notre écoute? Ça, je n'en sais rien, mais quant à savoir si elle est purement passive ou purement active, me semble sans doute, bon, je vais faire peut-être une réponse peut-être décevante, mais c'est sans doute un mélange des deux. Enfin, tout dépend de l'activité, de la passivité. Il peut y avoir une activité corporelle et une passivité, on pourrait dire, psychique, et au contraire, une passivité corporelle. Par exemple, on est assis, et puis au contraire, une grande activité psychique. Donc la radio, sans doute, mobilise des facultés en nous, qui vont bien évidemment de l'écoute, mais peut-être à d'autres sens, et le mouvement d'ailleurs, parce que souvent, pour ma part, j'écoute souvent la radio en voiture, et là je suis dans un mouvement, et souvent la voix ou l'émission accompagne ce mouvement. Donc vous voyez, il y a différentes conditions d'écoute, et je ne pourrais pas dire laquelle est optimale.
Alors c'est vrai que pour avoir fait quelques quotidiennes depuis une vingtaine d'années, j'ai souvent eu des remarques d'autrices, auditeurs, des gens qui me disent « Ah, je me couche tous les soirs avec vous » ou « Je déjeune tous les jours avec vous » selon que j'étais le soir ou le midi. La radio, elle possède cette capacité, on le sait bien donc quand on est en quotidienne, de fondre le rythme personnel dans le rythme du monde.
Oui, alors Bruce Bégout, est-ce que selon vous, notre environnement au moment de l'écoute change notre perception? Entend-on différemment la voix quand on l'écoute la nuit ou le jour, par exemple?
Sans doute, oui, ça doit jouer, bien évidemment, même la présence des autres aussi, le lieu dans lequel on se trouve. si c'est une cuisine, sa chambre, son bureau, la voiture, si on écoute la radio dans un bar. Bon, malheureusement, maintenant, c'est beaucoup plus les télés en continu, avec les chaînes d'information en continu qui sont dans des bars, mais il y a encore des lieux où il y a la radio, donc bien évidemment, l'environnement modifie un peu, on peut dire, le message radiophonique, mais inversement aussi, sans doute le message radiophonique modifie aussi l'environnement, c'est la manière dont on perçoit ce qui nous entoure. Oui.
Bruce Bégout, quelle est finalement la thèse que vous essayez d'étayer dans votre ouvrage ? Vous essayez de dire en introduction, je crois, que justement l'ambiance étant quelque chose de presque non définissable, il est compliqué de s'y attaquer philosophiquement.
Oui, d'une certaine manière, elle est tellement présente, nous sommes toujours immergés dans des ambiances qui peuvent être plus ou moins marquées, plus ou moins intenses, que nous avons tendance à oublier cette condition, et ce n'est que lorsque l'ambiance change qu'on s'aperçoit de l'ambiance. Et donc au fond, mon défi, ça a été d'essayer de transcrire par l'analyse le concept, cette dimension importante de notre vie ordinaire, et qui est au fond cette enveloppe affective qui nous accompagne partout et qui dépend des autres, qui dépend des lieux, qui dépend du moment de l'existence. Et c'est vrai que la difficulté était au fond de mettre des mots sur cette dimension qui semble impalpable, indéfinissable. L'ambiance n'a pas de contour, n'a pas de limite, c'est pas un objet, c'est pas non plus une idée. Donc c'est quelque chose qui est entre les choses et les esprits. Et donc cet entre est fascinant à parcourir et à défricher.
Dans votre propos, l'affect revient souvent comme un élément déterminant, et c'est aussi un élément qu'on entend beaucoup quand les gens écoutent la radio, ils ont une relation affective au son.
Bien évidemment, l'affect est important. Pendant longtemps, nous avons cru qu'au fond, la dimension fondamentale de l'existence était pour dire l'attitude pratique, puis l'attitude théorique, et on s'aperçoit, même dans les travaux des sciences cognitives, que l'affectivité joue un grand rôle dans la manière dont nous appréhendons le monde, les autres et même nous-mêmes. Donc, et l'ambiance est toujours porteuse d'un affect particulier, que ce soit la sérénité, la tristesse, la nostalgie, tout cela est une dimension affective indéniable. Et encore une fois, les voix elles-mêmes, bien évidemment, sont porteuses d'une qualité, d'une tonalité. On peut jouer sur le double sens, la tonalité au sens sonore et la tonalité au sens affectif d'une personne. Donc, bien évidemment, comme je le disais, bon, il y a des voix qui nous semblent spontanément amicales et d'autres qui nous semblent inquiétantes, voire agressives.
Votre dernier ouvrage, Le concept d'ambiance, sort demain au Seuil. Merci beaucoup, Bruce Bégout.
Merci à Bruce et merci à vous, Marie, de cette voix qui accompagne chaque soir les auditeurs. Vous savez que vous allez avoir, vous avez déjà cet effet-là sur celles et ceux qui nous écoutent.